Éternel Dieu, nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom parce que tu es tout pour nous. Si tu nous as amenés en ces lieux cet après-midi, c'est parce que tu veux encore parler à nos cœurs. Tu as donné ta parole, non pas que nous puissions la sentir seulement douce à nos oreilles, mais que nous soyons aussi disposés à la pratiquer et à exécuter tes ordonnances. C'est pourquoi je prie pour ces moments, afin que Père, tu parles à nos cœurs et que tu nous donnes des bonnes dispositions du Saint-Esprit pour que nous puissions pratiquer ce que tu vas nous communiquer cet après-midi. Soutiens ton serviteur, utilise-les comme un instrument pour nous communiquer tes ordonnances et nous serons bénis ensemble par ta parole. Que la gloire te soit rendue. Nous te prions parce que nous croyons dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.
Merci beaucoup, Papa Dixos. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore une fois? Alléluia! C'est un grand privilège d'être là pour partager la parole du Seigneur. Ce séminaire que nous avons commencé de dimanche, ce matin nous avons été ici et je vois un nombre de personnes qui étaient ici ce matin, donc nous sommes plusieurs prédicateurs. Donc, ne vous étonnez pas si quelqu'un s'élève et dit « Vous avez oublié ça !» Donc, nous avons plusieurs assistants ici qui connaissent déjà la matière d'avance et ils vont nous aider. Bienvenue à tout le monde pour ce séminaire, pour tous ceux qui sont ici, et je sais que le Seigneur va nous bénir. Une des choses que vous devez faire un effort de développer, c'est d'avoir la capacité d'écouter Dieu pour vous-même. Il est très important que chaque chrétien ait cette sensibilité, cette capacité de Dieu, d'écouter Dieu pour vous-même. Et cette année, nous voulons commencer cette année dans la sérénité, dans les jeûnes, dans la prière. Qu'est-ce que les jeûnes et la prière font? Il y a une bataille constante entre notre esprit et notre corps, entre les appétits du corps et ce que l'esprit veut. C'est un combat qui a commencé depuis votre naissance et que vous allez continuer à livrer jusqu'à votre mort, entre votre corps et votre esprit, qui aura la transcendance, qui aura le dernier mot. C'est une bataille constante et notre corps a des appétits qui ne sont pas les appétits de l'esprit, a des désirs qui ne sont pas les désirs de l'esprit. Alors, quand nous faisons les jeûnes, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de faire souffrir le corps et ses appétits pour donner plus de force à l'esprit. Le rôle du jeûne, ce n'est pas faire souffrir le corps par le plaisir de le faire, mais c'est pour mettre notre esprit dans une disposition où nous pouvons facilement écouter Dieu et parler à Dieu. Donc si pendant ces 2 semaines de jeûne, votre oreille spirituelle ne s'améliore pas, vous aurez raté une grande partie de ce jeûne. Vous aurez fait souffrir le corps, mais ça a développé. Alors j'ai prié pour nous tous que cette capacité d'écouter Dieu soit vraiment pour nous. Imaginez que quelqu'un vous appelle de Kécher et vous dit quelque chose et puis vous attendez venir. Les réseaux n'est pas bien et puis vous prenez une moto, vous allez à Kécher. Vous arrivez là-bas et vous dites, non, mais comment vous arrivez? Sinon, vous m'avez dit au téléphone de venir. Il dit, non, je vous ai dit de ne pas venir. Qui va payer votre moto aller-retour? Donc, la personne a dit, ne venez pas. Vous n'avez pas écouté la négation, vous avez dit, venir, vous allez. Vous allez regretter, n'est-ce pas? Alors, imaginez que vous vous engagez dans un projet avec toutes vos forces et vos ressources. Et qu'à la fin, vous réalisez que vous n'avez pas bien écouté Dieu. Vous aurez perdu le temps, l'énergie, les ressources. Donc, cette capacité d'écouter Dieu, c'est le don que chacun d'entre nous devrait demander auprès du Seigneur. C'est pourquoi vous allez trouver dans la Bible, tous les rois, avant qu'ils agissent, les rois justes, ils allaient d'abord demander aux prophètes, ou d'eux-mêmes comme David, est-ce que je dois poursuivre ces gens? Est-ce que je dois livrer cette bataille? Et quand ils avaient l'assurance que le Seigneur disait oui, ils étaient capables d'aller les faire. Regardez David. David qui veut construire un temple, il réunit tous les matériels et Dieu lui dit, ne construis pas. Et il a cette capacité d'écouter et de savoir quand Dieu lui dit va et quand Dieu lui dit ne va pas. Donc, je vous exhorte, avant qu'on saute dans cet enseignement, pendant ce jeûne, profitez pour tune, pour régler. Tu vois comment on règle la guitare, pour régler vos oreilles spirituelles. Parce que nous sommes en jeûne, nous sommes en train de faire souffrir nos corps, mais ce n'est pas pour que le corps souffre, mais c'est pour que nos oreilles spirituelles soient plus sensibles à ce que le Seigneur nous dit. Alors, merci pasteur, les consistoires et tout le monde d'avoir organisé cet exercice que je sais va être une bénédiction, pas pour l'Église seulement cette année, mais aussi pour nos vies futures. Amen. Alors, ça c'était avant l'introduction. Nous sommes en train de développer un grand sujet qui est « Quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il » Il est dans Psaume 11. « Quand les fondements sont renversés, le juste se pose la question « Qu'est-ce que moi je ferai en tant que juste quand il y a des contradictions que même ma foi ne sait pas expliquer ?» Que fera le juste au Congo quand nous avons passé des années et des années à prier pour la nation, à vanter un Dieu puissant qui dit et mot et les choses s'accomplissent et rien ne s'accomplit. Que fera le juste? Que fera le juste quand le moral de la terre sera renversé, où les hommes deviennent des femmes et des femmes deviennent des hommes, où il y a toutes sortes de choses qui se passent dans le monde? Le juste, que fera-t-il? Que fera le juste? Quand les méchants avancent dans la vie, ils ont la prospérité apparente et physique, mais les justes souffrent. Quand les fondements sont renversés, quand vous avez la perte d'une personne importante, un parent, un enfant, un ami, qui constitue l'un des piliers de votre famille, de votre façon de définir la vie, que fera les justes quand les fondements sont renversés? Voici un peu le grand sujet. Et chacun de nous, différents orateurs qui vont passer, vont prendre une portion de ce grand thème pour nous aider à savoir quelle attitude devons-nous avoir quand les fondements sont renversés. Et aujourd'hui, notre sujet, notre sous-sujet, c'est comprendre la vocation de notre pays, la République démocratique du Congo, dans les plans de Dieu. On peut le dire ensemble, un, deux, trois. Comprendre la vocation de notre pays dans le plan de Dieu. On va ajouter notre pays, la RDC, dans le plan de Dieu. On peut le dire encore ensemble, un, deux, trois. Comprendre la vocation de notre pays, la RDC, dans le plan de Dieu. Est-ce que la RDC a une vocation? Et je vous fais remarquer ici que celui qui a rédigé ce sujet a supposé que la vocation est là. Donc la question n'est pas de savoir si le pays a une vocation. La question présuppose que la vocation est là et que nous, nous devons faire l'effort de comprendre cette vocation et de nous engager dans cette vocation pour accomplir les plans de Dieu pour nous. Nous serons dans le livre de Genèse et nous allons lire un peu dans Actes des Apôtres et puis on va tirer quelques autres histoires de la Bible ici et là. Et nous rentrons dans Genèse parce que Genèse, nous sommes à la genèse de l'année, nous sommes au début de l'année, nous sommes au moment des commencements. Genèse, il faut lire Genèse au pluriel, les Genèses qui sont les commencements. Donc dans Genèse, nous voyons Dieu en train de faire les choses pour la toute première fois et nous avons des exemples de Dieu qui crée. Dieu qui parle pour la première fois, Dieu qui crée la femme pour la première fois, Dieu qui châtie pour la première fois, Dieu qui maudit pour la première fois. Donc Genèse, c'est une collection des commencements que nous trouvons dans la Bible. Et toute la fois que nous voulons nous référer sur quelque chose dans la Bible, souvent il est important d'aller à Genèse ou à la genèse de l'événement pour comprendre. Alors quand nous voulons comprendre le plan de Dieu, la vocation de notre nation, nous devons comprendre que quand Dieu parle des nations, Il ne parle pas des pays comme la République centrafricaine, l'Angola, la Suisse. C'est pas ça dont Dieu dit quand il dit les nations. Quand il dit les nations, il veut dire les peuples de la terre. Donc, l'ensemble de tous les êtres humains, les blancs, les noirs, les asiatiques, les personnes de couleur. Il y a déjà qu'on appelle des personnes de couleur. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui n'ont pas de couleur, mais dans la catégorisation sud-africaine, il y a des gens qu'on appelle people of color, les personnes de couleur. Je ne sais pas. Nous tous, nous avons une certaine couleur. Mais pour distinguer une certaine catégorie de personnes, ils appellent les personnes de couleur. Donc, tous ces gens font partie de ce que la Bible appelle les nations. Donc, quand Dieu s'adresse aux nations, il s'adresse à tous les peuples de la terre. Et l'histoire de Dieu avec les nations ne commence pas avec Israël. Nous pouvons trouver une histoire dans Genèse chapitre 11, la tour de Babel. Quand les peuples de la terre viennent ensemble et disent, nous allons nous construire un nom pour que nous ne soyons pas dispersés, nous allons être grands et construire une tour qui va aller jusqu'au ciel. Nous savons l'histoire que Dieu va venir et les disperser. La dispersion n'est pas parce que Dieu se fâche, parce que les gens vont le découvrir au ciel. Nous savons que le ciel n'est pas un endroit physique où nous pouvons aller. Sinon, on l'aurait déjà découvert avec les instruments technologiques que nous avons. Et Dieu va venir les disperser parce que leur projet, c'est un projet qui exclut Dieu. Le problème de la tour de Babel n'est pas que les gens étaient ambitieux. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des bâtiments qui vont au-delà des nuages. Leur projet est que les fondements de leur projet, c'était d'abord mettre Dieu à côté et puis nous, on travaille. Et Dieu dit, non, 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 ça ne va pas marcher comme ça. Vous pouvez construire tout ce que vous voulez, mais je veux être la pierre angulaire de ce que vous construisez. C'était ça le conflit avec la tour de Babel. Ça n'avait rien à voir de la grandeur du bâtiment ou même du nom qui voulait se créer. Mais c'était le fait que dans leur logique fondamentale de tout ce qu'ils avaient construit, il fallait que Dieu soit mis à côté. Et c'est ça le grand problème que nous avons aujourd'hui, et que dans tout projet où nous voulons construire et nous disons d'abord pour que ce projet marche, il faut qu'on a Mungu à quoi pemeni. Ce projet-là va avoir un problème avec Dieu. Je pense que vous avez déjà entendu des gens, quand il y a un problème, c'est bon, tout est quoi Mungu pemeni. Ça signifie que vous voulez faire quelque chose entre parenthèses où tous les coups sont permis et vous trouvez qu'avec la présence de Dieu, ça ne va pas arriver. Vous décidez, mettons d'abord Dieu à côté ou les choses de Dieu. C'était ça le problème de la tour de Babel. Les nations qui viennent et qui veulent mettre Dieu entre parenthèses et se construire un nom pour remplacer Dieu. Toute idolâtrie, c'est quelque chose qui vient remplacer Dieu, que ce soit l'argent, que ce soit autre chose. Et c'est après cette déception, après cette déception avec la tour de Babel, que Dieu va appeler le père d'Abraham. Le père d'Abraham va commencer à suivre Dieu pour aller à Canaan. Il va s'arrêter à Aram. Il va mourir là-bas. Et Dieu va appeler Abraham pour commencer à former une nation. Lisons maintenant une promesse que Dieu fait à Abraham et à partir de là, nous allons construire quelques leçons que nous pouvons tirer dans cette première partie de comprendre la vocation de notre nation dans le plan de Dieu. Genèse 18, verset 18. Je lis dans 8 secondes. Dieu dit, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Je le lis encore, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Nous lisons aussi Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Actes des Apôtres, c'est dans le Nouveau Testament, chapitre 1, verset 8. La Bible nous dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit s'y venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Je le lis encore, « Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit s'y venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, c'est la parole du Seigneur. Ici, nous voyons que Dieu appelle Abraham comme personne, mais dans sa promesse, Dieu inclut toutes les nations. Il lui dit, Abraham, tu seras certainement béni, mais à travers toi, la bénédiction ne va pas s'arrêter à toi, mais la bénédiction va aller vers toutes les nations. Nous voyons aussi la même logique dans Actes où Jésus dit à ses disciples avant de monter au ciel, « Allez m'attendre à Jérusalem, attendez la puissance. Vous avez déjà la connaissance, vous avez déjà l'enseignement, vous avez déjà vu les miracles, mais attendez la puissance du Saint-Esprit. » Et quand vous aurez cette puissance, ce n'est pas pour que les pharisiens aient peur de vous. Cette puissance, ce n'est pas pour que vous puissiez marcher au quartier et tout le monde commence à aller à côté pour dire « voilà les personnes qui ont la puissance ». Mais cette puissance va vous permettre d'être des témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors la première des choses que nous apprenons dans ces différents textes est que Dieu a toujours les nations en tête dans toute promesse qu'il fait. Quand Dieu fait une promesse, il peut te faire une promesse en tant que personne, mais Dieu a toujours les nations en tête. Les nations, tous les tribus de la terre, tous les peuples de la terre. Dieu n'est pas un Dieu sectaire, un Dieu qu'on peut privatiser. Et les promesses de Dieu ne sont pas des promesses privativables. Ce sont des promesses qui viennent à vous, au travers de vous, mais Dieu a toujours les nations en tête. Nous le voyons aussi à Genèse quand elle dit, Abraham, tu seras certainement béni, mais au travers de toi, toutes les nations seront bénies. Donc toute bénédiction que Dieu te donne, toute promesse que Dieu te donne, tout don que Dieu te donne, toute capacité que Dieu te donne, il faut savoir que ça va te bénir toi parce que ça va passer au travers de toi, mais cette bénédiction vise à bénir toutes les nations. C'est comme quand on vous demande à la maison, vous êtes les plus âgés, on vous demande de distribuer la nourriture, la viande, pour être pratique, à vos petits siblings, vos petits frères et petites sœurs. Bien sûr, la viande va passer par vos mains. Vous allez les bénir, mais vous aussi, vous allez rester avec quelque chose. En fait, si la charité bien ordonnée commence par soi, ou si elle n'est pas très petite que vous vous sacrifiez. Mais la logique est que la vase qui bénit ne peut pas rester vide parce que la bénédiction va passer par la vase. Vous voyez les paroles que je suis en train de dire ici, vous bénissent, n'est-ce pas? Alors, du moins, j'espère que vous bénissent. Il n'y a pas moyen que ces paroles vous bénissent, ça qui me bénisse moi aussi. Ça signifie que le prédicateur, comme outil, comme vase que l'Éternel utilise, les paroles viennent au travers de la personne, en bénissant la personne avant d'aller vers vous. C'est pourquoi même nous qui prêchons, parmi les règles que je me mets pour dire, je veux dire ça, je me pose la question, est-ce que cette parole me bénit? D'abord moi, en tant que mouine. Parce que si elle ne me bénit pas, il y a une forte chance qu'elle ne va pas bénir beaucoup de gens. Mais si elle me bénit, mais je me dis, waouh, ça c'est vraiment une grande révélation. Ça signifie que c'est un message que Dieu m'envoie et au travers de moi, il envoie à d'autres personnes. Et Dieu dit, je bénis Abraham, mais à travers Abraham, Dieu va bénir toutes les nations. Voyons aussi la même logique dans le livre des Actes où il dit, mais vous recevez la puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et le matin, nous avons vu que nous pouvons traduire ce texte dans notre langage courant. Jésus est en train de dire aux disciples, vous serez mes témoins localement, au niveau national, dans la Judée, au niveau régional, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, au niveau international. C'est dans Actes. Alors, il faut comprendre que tout appel que Dieu vous adresse, il a ses étapes. C'est une bénédiction pour vous, mais il veut que vous puissiez être une bénédiction locale, une bénédiction au niveau national, Une bénédiction au niveau régional et une bénédiction au niveau national. Nous, les chrétiens, nous avons une vision individualiste de la promesse de Dieu. Quand Dieu te donne une promesse, tu dis ça, c'est ma promesse. Unakanga promesse. Mais quand Dieu te donne une promesse, il faut savoir que dans la tête de Dieu, la promesse est toujours au-delà de la personne. C'est pourquoi il y a de certaines promesses que Dieu te dit maintenant, alors qu'il est en train de les dire à tes petits-fils à travers toi. Toi, tu attends ça et tu dis, ah, mon gars, amène piga promesse. Oh, amène pati. Dieu vient de me donner une promesse. Alors que, en réalité, il est en train de parler aux générations qui sortiraient de toi. Imaginez si Abraham avait compris littéralement. Je pense qu'il avait aussi compris littéralement parce qu'il était un peu découragé à un certain moment. Qu'il sera le père des nations. Nous, aujourd'hui, nous pouvons comprendre. Ah, c'est ce que Dieu voulait dire. Mais Abraham, lui, il devait comprendre quoi? Parce que lui, il devait compter les fils. Il compte, il trouve 0,5. En fait, Ismaël et l'autre. Ça va être comment Dieu? Mais Dieu savait ce qu'il voulait dire par les nations. Et quand Dieu, j'entends souvent les gens dire que Abraham, quand Dieu lui avait demandé de regarder au ciel, qu'il avait vu des étoiles qui n'étaient pas faciles à compter. Scientifiquement, nous savons que les étoiles que tu peux voir par tes propres yeux, c'est 6000. Tu ne peux pas voir au-delà de 6000, même si l'éclair est si tu comptes 1, 2, 3, 4, ta vision s'arrête à 6000. Tu ne peux pas voir avec l'œil libre plus de 6000 étoiles. Mais c'est avec les instruments aujourd'hui que nous savons qu'il y a des milliards et des milliards et des milliards d'étoiles. Abraham ne savait pas ça. Donc même Abraham pouvait limiter, même s'il comptait, s'il s'est décidé de compter, Abraham allait trouver 6000 étoiles. C'est facile de les compter. Et si Abraham avait écrit maintenant dans la Bible, j'aurais 6000 enfants, 6000 descendants. Et maintenant avec la découverte d'aujourd'hui, avec des milliards et des milliards d'étoiles, ça signifie qu'Abraham, même s'il comptait, son compte allait se limiter à sa vision. Mais Dieu qui a créé ces galaxies qui existent, cette année nous avons découvert une autre partie de l'espace qui n'existait pas. Certains se connaissent avec James Webb Telescope qui a été lancé l'année passée. Une grande partie de l'espace que les scientifiques ne connaissaient pas l'année passée. Et tout le monde était, waouh, ça c'est nouveau. Des milliards d'autres étoiles qu'on a découvertes juste l'année passée. Alors quand Dieu a dit Abraham compte les étoiles, si Abraham s'était limité aux étoiles qu'il voit, il allait se limiter à 6000. Mais dans la prophétie que Dieu lui donne, lui voit tout ce qu'il a créé pour lui dire, c'est impossible pour toi de mesurer la bénédiction que je vais te donner. Donc Dieu, quand il nous appelle, même ton petit business là, il faut toujours prier pour ça et dire, Seigneur, quand j'envoie ces textes peuvent aller vers les nations. Quand j'envoie cette parole peut aller vers les nations. Et la technologie nous a facilité. Tu peux prêcher ici à Gomaville et les nations vont attendre. Et alors Moloto l'avait prié que l'écho des louanges des Congolais iront jusqu'aux extrémités de la terre. Cette prière sera réalisée de notre vivant. Donc la première des choses que nous voyons ici est que Dieu a toujours les nations en tête quand il donne une promesse. Et les promesses que Dieu t'a faites, toi en tant qu'individu, qu'il a fait à nous comme personne, il a toujours les nations en tête. Donc ne faites pas l'erreur d'interpréter la promesse de Dieu selon la limite de ce que toi tu es capable de faire. Je vous donne un dernier exemple ici avant qu'on passe au point suivant. Moïse, né en Égypte, il commence à avoir un appel qu'il faut qu'il fasse quelque chose pour sauver le peuple d'Israël. Il commence à se battre jusqu'à ce qu'il arrive à tuer un Égyptien. Ça devient un scandale. Celui qui pensait qu'il allait être le sauveur, il fuit. Imaginez un sauveur qui fuit après avoir tué une seule personne seulement. Une seule, le sauveur fuit. Et il fuit pourquoi? Parce que seulement on l'a dit, est-ce que toi aussi tu vas me tuer comme tu as tué l'autre? Déjà le sauveur à Mekimbi. Tu vas sauver les gens comment? Il va passer 40 ans dans le désert. Dieu va le former. Il va le former, il va l'aider à travailler avec lui, l'aider à comprendre sa vision. Il va le ramener en Égypte et il va amener le peuple. Imaginez maintenant si vous lisez Exode chapitre 14. Quand le peuple d'Israël traverse la mer Rouge, Dieu ouvre la mer, le peuple traverse, les Égyptiens le suivent et Dieu ordonne au même Moïse de faire descendre son bateau et la mer se renferme et tue toute l'armée de l'Égypte. Regardez maintenant. Le plan de Moïse, c'était de tuer l'Égyptien un à un. Allô? C'était de tuer un à un et la Bible dit qu'il avait enterré dans les stables. Donc, toute l'Égypte était, elle allait devenir des petits macaos de Moïse. Des petits, comment on appelle, tombeaux, hein? Cimetière Niakabami, Moya Njongapi, tombe, des petites tombes de Moïse. Mais quand Dieu lui agit, quand il lui dit je vais anéantir l'armée, Dieu avait le plan d'anéantir toute l'armée au même moment. Mais Moïse ne l'avait pas compris, il commençait à tuer un à un. Il allait faire combien d'années pour exterminer l'armée d'Égypte? Et on n'allait pas lui laisser faire en faisant un à un. Et quand Dieu, en Exode 14, Dieu dit à Moïse, je vais te montrer, il dit aux enfants d'Israël, je pense à partir du chapitre 13, les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Le peuple d'Israël ne comprenait pas qu'est-ce que Dieu veut dire. Parfois nous avons des défis et nous voulons les résoudre les défis un à un, alors que le plan de Dieu c'est de les réunir ensemble et les résoudre au même moment. Et quand ce moment arrive, quand nous travaillons avec Dieu, nous connaissons la différence entre bricoler des miracles et quand Dieu lui-même fait un miracle. Il y a une différence, moi je connais la différence, c'est quand moi je bricole un miracle et quand Dieu lui-même le fait. Il ne faut pas bricoler des miracles. Même pour la RDC, nous pouvons chercher à bricoler des miracles. Mais si Dieu décide de s'élever sur cette nation et dit un mot, je vous dis, mes chers amis, il n'y a pas un pouvoir, il n'y a pas de ressources, il n'y a pas une nation qui peut résister. Si Dieu dit que le moment de cette nation de se relever, c'est maintenant. Si Dieu le dit, je vais le faire à travers tel, il n'y a pas une personne qui peut le faire. Dieu a toujours les nations en tête quand il donne une bénédiction. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que nous pouvons apprendre ici est que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Revenons maintenant à notre nation, la RDC. Nous avons traversé des problèmes énormes. La plupart d'entre nous connaissent les tueries qui ont été perpétrées ici à l'Est, plus de 10 millions de morts jusqu'à maintenant depuis les 25 ans de guerre. Mais on oublie aussi qu'il y a eu d'autres tueries dans les années 1910 jusqu'à 1930 à cause du caoutchouc. 10 millions aussi de morts sont morts à l'ouest de la RDC. Maintenant nous sommes à 10 millions à l'Est. Nous avons perdu à l'ouest de la RDC, Bas-Congo, Bandundu, et jusqu'à une partie de l'Équateur. 10 millions de morts à cause du caoutchouc, parce que les colons cherchaient le caoutchouc. Donc, notre nation a déjà traversé des problèmes. Et ce n'est pas aujourd'hui que nos problèmes commencent. Mais tout ça, nous disons, quand les fondements sont renversés, où est le Dieu là, à qui nous crions? Qui voit le sang des enfants couler à Béni et dans d'autres parties du pays? Qui voit les ressources du pays bradées par un groupe de gens et qui s'étaient? Nous pouvons prendre confiance que notre Dieu, c'est le maître des temps et des circonstances. Pourquoi c'est important de comprendre Dieu dans sa dimension éternelle? Parce que Dieu est à l'extérieur du temps. Tu ne peux pas poser la question. Ça fait combien de temps que l'éternité dure? C'est une contradiction, je pense qu'on appelle oxymoron. Hein? Oxymoron, c'est une contradiction des termes. C'est une contradiction. Tu ne peux pas parler de l'éternité en mentionnant le temps. Même dans notre définition, l'éternité, c'est le temps qui ne s'arrête pas. Ça, c'est déjà une erreur. L'éternité, c'est l'éternité. Tu ne peux pas utiliser le terme temps pour déterminer quelque chose qui est à l'extérieur du temps. Alors, quand nous disons, c'est pourquoi Dieu ne vit pas dans l'éternité. Il est éternel. Il est éternel. Donc, éternel, c'est son essence. C'est sa personne. Être sans cause. C'est ce que les philosophes disent. L'être qui n'a pas de causalité. Ah, c'est ça le français. L'être sans causalité, qui n'a pas de cause. Ça, c'est notre Dieu. Maintenant, lui crée le temps et il nous place dans le temps pour que nous puissions agir. Alors, quand Dieu agit, il agit à son moment. Disons moment, pas temps. Il agit à son moment parce qu'il connaît, il est le maître des temps et des circonstances. Je vais vous donner un exemple. Regardez le peuple d'Israël que Dieu appelle pour devenir une nation. Mais elle devient une nation nombreuse pendant qu'elle est en esclavagisme, en esclavage. Pendant 400 ans, Dieu va les ramener de là, ils vont aller dans le désert pendant 40 ans, avant maintenant de commencer la bataille, de se battre pour leur propre Canaan. Et même à Canaan, ils vont aller à déportation, donc ils forment une nation, mais ce n'est pas quelque chose qui va comme sur les roulettes. Il est le maître des temps, des circonstances, de la géographie. Ça signifie ceci, que nous devons faire confiance que quand nous prions, Dieu attend. Dieu attend. Et demain, nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour participer, pour que Dieu ait des outils à travers lesquels il peut travailler. Ça, c'est pour demain. Parce que Dieu travaille avec un partenariat humain. Les seules personnes qui peuvent bloquer ou retarder l'action de Dieu, c'est nous. On va voir ça demain. Comment nous pouvons retarder l'action et l'intervention de Dieu dans notre vie et dans notre nation. Donc, dans notre pays ici, je ne comprends pas pourquoi nous mourons. Je ne comprends pas pourquoi nous sommes dans un pays plein de ressources, mais que nous ne jouissons pas. Mais je sais qu'il y a un plan et Dieu est le maître des temps et des circonstances. Une dernière chose sur ceci est que, on disait le matin, la Bible dit que l'âge de l'homme c'est 70 ans et pour le plus vigoureux c'est 90 ans. N'est-ce pas? Bon, il y a certaines personnes qui ont 100 ans. Prenons 100 ans. Que l'être humain vit en moyenne 100 ans. Ce n'est pas la moyenne, juste pour cet enseignement. En moyenne 100 ans. Parce qu'au Congo, l'espérance de vie c'est 56, n'est-ce pas? 57, je pense qu'ils ont augmenté récemment, c'est 50, autour de 57 là-bas. Alors, si nous prenons 100 ans, maintenant prenez 100 ans sur l'échelle du temps. Prenons depuis la découverte des Écritures. C'est 4000 ans avant Jésus-Christ, n'est-ce pas? Si vous prenez 4000 avant Jésus-Christ jusqu'à zéro, et puis il y a 2023. Donc si vous additionnez, vous avez 6023. Si vous soustrayez 100 ans, sur 6023, vous restez avec combien? Allô? Alors, faisons cet exercice. Prenez votre téléphone, prenez 100 divisé par 6023. 100. 100 divisé par 6023. Je l'ai fait aussi ici. 6023. Vous avez trouvé combien? 0,16. Fois 100. 1,6. Ça signifie que si le temps qui est déjà écoulé, si tu vis 100 ans, tu as seulement vécu 0,016 sur le temps qui s'est écoulé depuis la découverte des Écritures. 100 ans. Allô? Combien d'entre vous peuvent perdre une nuit si vous perdez 0,016 dollars. J'ai perdu 0,016 dollars. Certains d'entre vous, si on soustrait cet argent même de votre compte bancaire, vous n'allez même pas remarquer. Voilà un peu, si on prend seulement la découverte des Écritures, on peut aller à la préhistoire. Ça sera autre chose. Allô? Ce qui signifie que si tu prends 100 ans sur l'échelle du temps, c'est très petit. Mais comme nous sommes dans les temps, ça fait peut-être 30 ans que nous vivons, nous voyons que ça a fait beaucoup de temps. Comme quand on était jeune, Noël était très loin. Même aujourd'hui, nous venons de fêter Noël et l'autre vient demain. Mais pour les enfants, en tout cas, il y a encore autour de 2 ans avant Noël. Parce que pour eux, le temps, ils ne voient pas le temps passer. Leur idée du temps, ce n'est pas vraiment... Et nous qui grandissons, une semaine, c'est rien. La semaine commence, elle se termine déjà. Il y a déjà ici qui sont ici, ils ont déjà terminé la semaine prochaine. Et ils sont là. Et il y a ceux qui ne sont pas venus parce qu'il y a des semaines qui sont compliquées. Pour dire ceci, mes chers amis, si tu prends ta vie sur l'échelle du temps, elle est très petite. Mais Dieu nous donne le privilège, et ce que nous allons voir demain, de faire que ce petit pourcentage-là soit utile. Je vous encourage de venir pour voir comment tu peux rendre ce petit pourcentage-là utile pour que Dieu prenne le temps de t'adresser à toi et te donner une promesse qui va avoir l'incidence sur toutes les nations. Parce que Dieu le fera. Notre temps avance. Nous venons de dire que Dieu a toujours les nations en tête, que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Demain, nous allons parler de l'appel personnel. Donc, je saute un point ici pour gagner du temps. Et ici, nous apprenons aussi que Jésus-Christ est la lumière qui éclaire les nations. La Bible dit que le peuple qui vit dans les ténèbres a vu une grande lumière. Parce qu'un enfant est né, le prince de paix est né. Le peuple et les nations qui vivent dans un grand ténèbre a vu une grande lumière. Le matin, j'ai chanté pour les amis un chant que j'aime chanter à la maison. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt s'élever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Je vois la plupart d'entre nous n'avons pas été catholiques. Mais c'est un chant très, très, très puissant parce qu'il dit dans les refrains, il est le temps d'élever les yeux vers le monde qui vient. Il est le temps d'accueillir le Fils. Nous trouvons ici que Jésus-Christ nous apporte aux nations la lumière. Demain, nous allons voir qu'est-ce que cette lumière signifie en pratique. Quand on dit on nous apporte la lumière, est-ce que c'est d'émeraude? Est-ce que c'est Sokodé? C'est quoi au juste quand la Bible nous dit que le Fils nous apporte la lumière? Et si vous lisez dans 1 Jean, je pense 1 Jean chapitre 1, où dit ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons expérimenté, nous les communiquons et il parle de la lumière qu'ils ont vue et qu'ils communiquent. Alors nous allons voir un peu ce que ça signifie. Donc nous devons croire que Jésus nous apporte la lumière. Notre dernier point aujourd'hui sera de parler de la RDC. Notre nation a un appel, a une vocation. Pourquoi dit-on que notre nation a une vocation? Parce que la vocation à part de Dieu, on la comprend en sachant ce que, en voyant ce que Dieu a déjà déposé comme ressource pour préparer. Ok, je vais expliquer ça autrement. Je prends un autre angle. Un exemple. Imaginez, nous avions réveillon le vendredi, que vous ameniez quelqu'un qui vient toujours à Gomaville et qu'il arrive avant réveillon, il n'y a personne ici, et vous ouvrez les portes, il voit tous ces décors. Directement dans sa tête, il va conclure, il y a quelque chose de spécial qui va se passer ici. Pourquoi il va conclure ça? Parce qu'il va voir comment les setups, le setup lui-même lui communique qu'il y a quelque chose de spécial. Si vous allez quelque part et vous trouvez qu'on a mis 40 000 blocs dans une parcelle, vous allez conclure quoi? Qu'ils veulent construire. Si vous allez quelque part, vous trouvez 500 sacs de ciment entassés quelque part. Soit ils vont construire, soit ils sont en train de vendre. N'est-ce pas? Ça signifie que quand vous voyez quelque chose, ça vous indique ce qui va se passer avec ce que vous voyez. Et quand vous voyez des ressources qui sont réunies quelque part, ça signifie qu'il y a un objectif que Dieu a fait pour donner ces ressources. Et c'est pourquoi la Bible dit que à qui plus est donné, plus est fait comment? Est demandé. Parce que Dieu ne nous demande pas la même chose tous. Il nous demande selon la proportion de ce qu'il nous a donné. C'est pourquoi qu'il y a un jour à mon ministère, moi, je dis souvent, aux gens disent, non, toi, tu te donnes beaucoup. Je dis, non, non, moi, je connais ce que Dieu m'a donné. Par rapport à ce que Dieu m'a donné, je donne en tout cas autour de 40%. Ça, c'est mon évaluation. Bon, je ne sais pas ce que Dieu en pense. Mais par rapport à ce que Dieu t'a donné comme ressource, tu donnes combien? Ça signifie que si nous regardons notre nation et nous voyons la richesse que Dieu a déposée dans cette portion de terre, il doit y avoir une vocation grande. Une vocation grande pour ces ressources-là, pour que nous puissions envoyer un message vers les nations. Le matin, on réfléchissait, il y a des chercheurs qui ont essayé d'estimer la richesse du sous-sol de la RDC. Et ils ont trouvé 24 trillions de dollars. OK, trillion, c'est milliard fois mille. OK? Milliard, c'est 1 million fois 1000. OK? 1 million fois 1000. Hein? Vous avez ça en tête? Et puis, vous prenez maintenant ce que vous avez obtenu, les milliards, la fois 1000, vous avez 1 trillion. Et nous, nous avons 24 trillions sous notre sous-sol. Pour vous donner une idée, ces 24 trillions, c'est combien? Si vous prenez l'économie des États-Unis en entièreté, aujourd'hui, c'est ce qui représente 24 trillions. C'est dans notre sous-sol. Si vous ne connaissez pas 24 trillions, c'est combien? Prenez l'économie de la France, 3 trillions. Allemagne, 5 trillions. Japon, 4,5 trillions. Vous voyez? Vous allez additionner, par exemple, les 5, la Chine a peut-être, ils sont en train de frôler 15. Vous pouvez additionner un nombre de pays, tout ça c'est dans notre sous-sol. Ça, oui, le sous-sol connu, et ce n'est pas nous qui avons fait ces recherches. Donc il y a toute une possibilité que c'est sous-estimé. Oui. Alors pour dire ceci, mes chers amis, je peux vous donner secteur après secteur de la potentialité de ces pays, et il n'y a pas moyen que Dieu donne ces ressources-là. Ça qui est un objectif énorme. C'est pourquoi les nations accourent vers ces pays pour prendre un peu. Mais nous, les héritiers de cette richesse, quand l'héritier ne comprend pas la signification de ce qu'il a, cela sera pris par d'autres gens. Et nous allons voir, je pense demain, je vais y toucher, sur qu'est-ce que nous allons faire pour être des bons héritiers, pour que nous puissions répondre à la vocation de cette nation. Même à l'église, à Gomaville, Dieu nous a bénis avec des ressources humaines. Et nous avons inspiré, je vous dis, toute la ville dans beaucoup de choses. Dans les décors, dans les médias, dans beaucoup de choses, nous avons inspiré. Le plus Dieu vous donne, le plus vous avez des responsabilités. Je vais finir par vous dire, avant demain, pour ceux qui vont venir, faites un inventaire des dons et des choses que Dieu a déposées dans votre vie. Parce que demain, nous allons voir, pas seulement pour les nations, mais pour toi en tant qu'individu, comment tu peux faire pour que ce bien-là soit utilisé pour la gloire de Dieu. Donc, je crois avec tout mon cœur que la RDC a une vocation prophétique. La RDC a une vocation prophétique d'aider les nations, d'être une bénédiction aux nations. Mais la bénédiction se gère. Si on ne gère pas la bénédiction très bien, on va causer des problèmes. Nous avons des exemples comme Samson, qui n'a pas si géré sa bénédiction et il a causé des problèmes. Jusqu'à ce qu'à la fin, il a dit, Seigneur, donne-moi la dernière force, n'y va où tu y parle. Et ils sont tous morts enterrés. La bénédiction se gère. Vous savez qu'il y a des choses que si je veux te détruire, c'est te donner seulement 1 million de dollars. Il y a des gens que si on te donne 1 million, tu es détruit. Pourquoi on a détruit 100 dollars? Anapata tu 100 dollars anasema oh anaanza chamba watu waambie watu mbaya 100 dollars. Vous savez que la bénédiction détruit plus de gens que la souffrance. Allô? Pourquoi pensez-vous que la plupart des belles filles ont une mauvaise réputation? Tu sais pourquoi? Dans toutes les nations. C'est parce qu'avec leur bénédiction qu'ils ont naturellement, les gens s'intéressent à eux. Et c'est pourquoi si vous avez un enfant joli, commencez déjà à former cet enfant à gérer cette attention dès le bas âge. Parce que là, cette personne n'aura pas les mêmes défis que les autres enfants. Si tu es l'enfant du gouverneur, tu n'auras pas les mêmes défis que les autres enfants. Le fait que tu attires l'attention, tu es l'enfant du pasteur, tu n'auras pas les mêmes défis que les autres enfants. Imaginez Mutoto à Bill Gates qui est sommé par Kugoma Ville. Vous pensez que ce jeune-là aura les mêmes défis que nous autres? Il sera l'ami du pasteur de moi. Oui! Je dois être son ami, il n'y a pas moyen. Même Akikata, Atanakata, là, je vais chercher un moyen pour que nous soyons des amis. Et cela va aussi pour ceux qui ont des talents, par exemple, nous autres qui chantent. Bon, les autres qui chantent. Tu as une très belle voix. Directement, ça, c'est une source de problèmes. Tu as un talent particulier. Nous qui prêchons, toute le fois que tu as quelque chose de particulier, ça te met en danger. Et tu dois apprendre à gérer ça avec sagesse. Tu dois apprendre à gérer ça avec l'accompagnement de Dieu. Et nous devons nous former à l'église. Comment on gère si toutes les caméras du monde soudainement se tournent vers toi? Allô? Combien vont rester intègres? Pasteur Festo. Demain on se réveille, tout le monde parle Pasteur Festo. Les invitations qui viennent de partout. Et les gens qui disent seulement, dis ton prix. Dis ton prix, on va payer. Combien déjà vont appeler pasteur à qui est quoi anniversaire à Onekan? Mais est-ce qu'on peut avoir ces bénédictions et nous contenir et savoir que nous avons ces bénédictions pour être des étendants? Les bénédictions de la beauté pour être un étendant. Les bénédictions des bons sourires pour être un étendant. Les bénédictions d'une belle voix pour être un étendant. Les bénédictions de jouer bien aux instruments, de prêcher bien, d'avoir de l'argent, d'avoir de la richesse. Est-ce que nous pouvons gérer nos bénédictions comme des bons étendants? C'est là où la RDC, et si vous lisez ça dans Proverbe, vous allez trouver que Salomon compare Israël comme une jolie fille qui n'a pas su gérer sa bénédiction. Et nous, la RDC, nous sommes comme ça. Allô? Je vous donne quelques exemples. J'espère qu'on n'est pas en ligne. Je vous donne juste quelques exemples. Vous connaissez l'organisation Latlong, n'est-ce pas? Vous connaissez les propriétaires? C'est un Sud-Africain. Il est venu ici pour travailler comme agent de la MONUSCO. Il a vu l'opportunité qui est ici. Il a démissionné à la MONUSCO. Il est allé prendre les ressources pour venir créer l'Athlon. Quand il a vu les ressources qui sont là, les potentiels, il a démissionné, il a créé sa propre organisation. Je connais un autre, je ne vais pas le mentionner, vous pouvez le connaître, qui vient de démissionner dans une organisation internationale pour créer un business de café. Et sa famille vient de démissionner, ils ont démissionné ici en novembre pour créer son business de café ici, en RDC. Alors quelqu'un a été expatrié. Je vous dis, mes chers amis, si tu parles aux étrangers, quand ils arrivent au Congo, ils se posent la question, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens qui vivent ici? Un dernier exemple d'exos. Hein? J'étais à Baraka, à Fizi. Si vous quittez le côté là de Hewabora, il y a un endroit où c'est toute une montagne qui a une verdure qui peut être de peut-être 50 cm comme ça. C'est pas le kikuyu là, mais c'est une verdure un peu beaucoup plus longue. Il y a ça comme le ngano. Nani ngano. Et c'est comme cinq montagnes qui sont comme ça. Et quand les vents passent, il est ngano na kwa ndaif. Et vous les regardez, c'est comme si les montagnes sont en train de danser. On était avec un blanc, il a pris sa caméra jusqu'à ce que Nani Kai, carte mémoire et Kayal. En train seulement de voir comment les montagnes sont en train de danser au rythme du vent. Parfois, on va dans d'autres pays et on vous montre un lieu touristique. On n'a pas fait qu'on a encore ça. Bon, lieu touristique est quoi? Puis si je parle comme un fils, on a encore ça. Attends, lieu touristique. On te montre lieu touristique et tu continues à le chercher alors que tu es là. Tu dis, ok, on va arriver à un certain moment. Mais en RDC, un lieu touristique, on n'a pas besoin de te le dire. Quand toi-même tu arrives, tu dis, waouh. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Nairobi, il y a des lacs naturels qu'ils ont créés artificiels dans Uhuru Park. Donc, pour que les enfants de Nairobi vont au lac, ils ont créé des lacs dans Uhuru Park, artificiellement. Kagame est en train de faire aussi là, sur la route de la mer, un lac artificiel, bientôt ça sera là. Mais nous avons un lac ici. Nous avons des lacs. Pour vous dire, mes chers amis, considérant les grandes bénédictions que le pays a reçu, il ne peut y avoir qu'une seule explication. Nous avons une grande vocation. Et cette vocation va passer par la transformation de l'homme qui vit sur cette terre, comme les Israélites. Les Israélites, on les avait donné une portion de terre, mais dans leur tête, ils étaient des esclaves et n'ont pas si géré. Comment tu donnes à un esclave une terre? Tout ce qu'il sait, c'est de travailler pour les autres. Il fallait qu'il passe par le processus de quitter l'esclavagisme de la tête jusqu'à devenir propriétaire dans la tête. Allô? Ok, un dernier exemple. Je vous donne un exemple. Prenons un... Je vais prendre quel métier, prenons un cordonnier quelconque dans votre quartier. Vous voyez un cordonnier dans votre quartier. À supposer que le cordonnier gagne un loto ou une loterie et qu'on lui donne la plus belle maison de Goma, par exemple le gouvernorat. Ça va? Cordonnier, mon quartier, peut-être que le Virunga ou Majengo, a me gagné gouvernorat. Combien d'entre vous vont demander que le cordonnier aille vivre au gouvernorat? Mon cher, il faut que enjoy. Je vous dis que la plupart d'entre vous vont demander de faire louer la maison ou de vendre la maison et de faire autre chose avec l'argent ou de donner ça à quelqu'un. Vous pouvez tout s'y gérer sauf que la personne aille vivre dedans. Parce que vous savez quoi? Dans votre tête, vous avez déjà imaginé qu'il n'a pas le niveau de vivre là-bas. Et si tu le trouves même là, dans sa propre maison, tu risques de lui demander, papa, on va payer quoi? Parce que dans ton tête, tu as déjà un préjugé sur sa capacité. C'est ce qui se passe quand tu as une bénédiction et tu ne réalises pas la grandeur de la bénédiction que tu as. Les gens arrivent, te trouvent et posent la question, qui est le responsable ici, alors que tu es là? C'est ce qui se passe dans notre pays. Excusez, quand je parle du pays, toi, je ne sais pas, je suis un peu emporté. C'est ce qui se passe dans notre nation. Les gens arrivent dans notre pays, ils nous regardent et cherchent, ok, le responsable c'est qui? Nous sommes là, non, pas vous. Nous cherchons le vrai responsable et on va le trouver à l'étranger. Les répondants. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Il nous faut une transformation. Ces cordonniers-là, il y a l'espoir pour lui. Ces cordonniers peuvent arriver à un niveau de transformation où vivre dans cette maison comme le gouvernorat peut être naturel. Et nous pouvons le faire. Ou vivre dans un pays qui est plus beau qu'avant peut être naturel, peut être la bonne chose à faire. Donc, la RDC a une vocation, mes chers amis, et que demain et toute la semaine, nous allons continuer à en parler. Demain, on va parler maintenant de l'individu. Toi, en tant qu'individu, ce que tu peux faire, et puis on va culminer le jeudi avec connecter maintenant les nations et l'individu, comment nous pouvons marcher ensemble. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.